France Inter.
Supposons, chiffre pris au hasard, qu'il y ait 100 000 bureaux occupés par 100 000 entreprises commerciales. Instituons par roulement le travail de nuit. Voilà 50 000 bureaux libres de se transformer en logements. On m'accordera que tout cela est facile et peu coûteux. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a gros à parier que le gouvernement refusera de prendre à son compte ces suggestions purement amicales et qui sont du devoir de tout bon citoyen.
C'est Boris Vian, autre écrivain, en octobre 54 sur la radio-télévision française. Il y propose avec son ironie habituelle une solution à la crise du logement de l'après-guerre. Le sujet, c'est la reconstruction. 70 ans plus tard, la crise est différente, mais toujours là. Logement trop cher, loyer qui flambe, se loger est devenu un problème du quotidien. En France, comme partout en Europe, le gouvernement a donc dévoilé hier de nouvelles mesures. Et là, c'est un vrai changement de doctrine. De l'argent pour le logement social et puis le feu vert à un nouveau dispositif fiscal après le Pinel. Sébastien Lecornu affiche un objectif très ambitieux, 400 000 logements par an d'ici 2030. Le sujet de fond, c'est encore la construction. Il faut augmenter l'offre face à une demande qui explose. Mais est-ce que ça va suffire à lever l'obstacle du prix? Le logement, c'est le premier poste de dépense des Français et plus on est modeste, plus il pèse lourd. Accéder à la propriété, c'est devenu bien plus compliqué. Là où on s'endettait sur 15 ans, en l'an 2000, il en faut désormais 25 pour rembourser les prêts. Les plus de 50 ans et les ménages aisés tiennent le choc, mais pour les classes moyennes, le rêve de propriété s'éloigne. Alors depuis 2 ans, oui, la remontée des taux a tout grippé. Selon Crédit Logement, mauvaise nouvelle. En 2026 et 2027, les crédits immobiliers devraient encore coûter plus cher. Mais avant cela, comment expliquer que 10 ans de taux très bas à partir des années 2010 n'aient pas permis de mettre plus de logements sur le marché, mais surtout fait exploser les prix? Comment est-ce qu'on n'a pas réussi à éviter ça? Eh bien, pour moi, ça reste une énigme.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la conversation écho, une heure d'émission que je vous ai préparée avec la bande, c'est-à-dire Valentin Pérez, Céline Hila, Anne-Cécile Perrin, Titouan Labarre au mix et face à moi, Jérôme Ragano à la console. L'invité de ce samedi 24 janvier, c'est la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, interview vers 9h40 avec des questions d'actualité, les salaires, le pouvoir d'achat, mais aussi la remontée du chômage et puis les interrogations sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Est-ce que vous avez vu ces suppressions de postes dans la banque, chez les traducteurs? Est-ce que le nombre d'emplois que va créer l'IA compensera? Eh bien, vous entendrez le reportage de Stéphane Jourdain. On parle vieux boulot et qui voilà. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Question ce matin, est-ce qu'on peut se faire virer parce qu'on a eu un comportement, disons, répréhensible à l'extérieur de l'entreprise?
Oui, en l'occurrence, un salut nazi dans un stade de foot. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé l'affaire. Je vous dis ça tout à l'heure.
Ah ouais, vous nous racontez juste avant 10h. Mais d'abord, le moment du débat, c'est ce matin avec Ludovic Subran. Hello Ludovic.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des investissements de l'assureur Allianz. Et Marc Vigneault, bonjour Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste spécialiste des finances publiques chez nos amis du quotidien L'Opinion. Ces derniers jours, Donald Trump, encore lui, n'a donc pas hésité à brandir de nouveau la menace des droits de douane contre des pays européens. Il était mécontent de leur position sur le Groenland ou alors de la France sur son refus de participer au Conseil de la paix pour Gaza. À l'heure où nous parlons, Trump a plutôt fait marche arrière, mais qui va parier que ça va durer, hein ? Question connexe. Où sont nos muscles ? Où sont les muscles de l'Europe pour dissuader, pour riposter ? Voilà la grande question aujourd'hui. Et pour répondre, il faut regarder quelles cartes économiques les 27 ont dans leur jeu. Donc ce samedi, comment on transforme des herbivores en carnivores ? C'est le débat.
Donald Trump,
président des États-Unis.
Je vais peut-être faire ça pour le Groenland. Je vais peut-être imposer des droits de douane aux pays qui ne suivent pas parce que nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Donc je vais peut-être faire ça.
Nous n'acceptons pas le chantage.
Lars Klingbeil, ministre allemand des Finances.
Nous préparons des contre-mesures avec nos partenaires européens dans le cas où le président Trump maintiendrait ses menaces tarifaires.
Sans gouvernance collective, la coopération cède sa place à une concurrence acharnée.
Emmanuel Macron.
La concurrence des États-Unis par le biais d'accords commerciaux qui nuisent à nos intérêts sur les exportations demandent un maximum de concessions et visent ouvertement à affaiblir et à subordonner l'Europe. Nous devons faire avancer le principe de préférence européenne.
L'instrument anticoercition n'a jamais été utilisé depuis sa création en 2023. Gel des accès aux marchés européens donc, mais aussi taxation sur les importations et les services. Cette arme apparaît tellement redoutable qu'elle est qualifiée de bazooka commerciale.
Bon, à un moment donné, il faut que l'Europe dise stop à Donald Trump, et ce moment est venu.
Patrick Martin, président du MEDEF.
Ne nous sortons pas de la tête que l'Europe est le premier marché mondial et que les Américains ont besoin de l'Europe. Alors c'est plus ou moins sensible selon les secteurs d'activité, mais il faut qu'on arrête de considérer qu'on est dans un rapport du fort au faible, le fort les États-Unis, le faible l'Europe.
L'Union européenne a du mal à faire le deuil d'un certain monde.
Aurore Laluc, présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.
Si on veut gagner une guerre commerciale, ben il faut se battre pour la gagner. Si on veut gagner une guerre hybride, il faut se battre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra de toute façon cibler les points faibles et les points forts des États-Unis. Les GAFAM, les Big Tech font 25% de leur chiffre d'affaires chez nous. Il faut à un moment menacer de les taxer.
L'hégémonie américaine a permis de fournir des corridors maritimes ouverts, un système financier stable, une sécurité collective, des cadres pour résoudre les différends.
Marc Carney, Premier ministre du Canada.
Aujourd'hui, ça ne marche plus. Je vais être direct. Nous sommes à un point de rupture, pas de transition.
Ludovic Subran, je me tourne vers vous parce que le discours du Premier ministre canadien, il vous a beaucoup marqué sur ce nouvel ordre mondial qui doit se dessiner au-delà du multilatéralisme qu'on est en train d'oublier, du respect du droit. Et donc ça, c'est le Canadien qui dit qu'il faut créer un nouvel ordre mondial avec les puissances moyennes. Et il y a la question de l'Europe, quoi. Qu'est-ce qu'on a, nous, dans le coffre pour être plus mordant? On a cherché, on a beaucoup préparé cette émission et on a trouvé au moins 4 pistes. La première, c'est être fort à la maison.
Ouais, c'est être fort à la maison parce que Orlalu disait il faut des représailles sur les big tech, etc. Il faut certainement un peu de tout ça. Mais ce que dit Marc Carney par ailleurs dans son discours, c'est un peu ça. C'est moi j'ai baissé les barrières transprovinciales, les barrières tarifaires. On sait qu'il y a énormément il y a l'étude par exemple du FMI qui montre qu'à l'intérieur de l'Europe on a des barrières commerciales qui équivalent à peu près à 10-15% de barrières douanières. Dans le rapport Draghi que le chancelier Merz a appelé de ses vœux, on parle bien sûr de l'innovation, des investissements à hauteur de 5%, mais aussi du renforcement de notre architecture intra-européenne. Comment on fait pour avoir vraiment du capital qui circule et qui finance nos PME? Comment on baisse les barrières réglementaires pour les PME? Et je crois que c'est un peu ça au début. Il faut quand même être fort pour aller se confronter aux autres. Et là, aujourd'hui, on voit que l'Europe, depuis un an, donc depuis l'arrivée de Trump, n'a pas vraiment mis en branle quoi que ce soit qui soit d'une ambition débordante. Et ça, je pense que c'est notre plus grosse faiblesse aujourd'hui.
Marc Vigneault.
Effectivement, il y a beaucoup d'économistes qui vous expliquent que le marché unique européen n'est pas vraiment un marché unique et donc il faut, enfin c'est un début de marché unique évidemment, mais on n'exploite pas assez la force de 450 millions de consommateurs et en fait il y a plein de réglementations qui empêchent par exemple une start-up de se lancer dans toute l'Europe d'un coup, d'accéder tout de suite à l'entièreté du marché. Et donc qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit je vais aller me lancer aux États-Unis où je vais pouvoir toucher tout le marché américain et après je vais aller dans le reste du monde. Et donc il faut arriver à ce que nos entreprises, nos jeunes entreprises innovantes puissent se lancer sur le marché européen, puissent bénéficier de marchés financiers suffisamment puissants et de fonds de capital risque, de fonds qui permettent de financer quand elles montent en puissance, quand elles, c'est pas plus juste des start-up et qu'elles ont besoin de beaucoup d'argent pour se financer. Et donc ça passe par exemple peut-être par développer des retraites par capitalisation parce que c'est de l'argent qui s'investit sur le temps long où on peut prendre un peu plus de risques. Et voilà, il faut financer nos entreprises européennes pour qu'elles soient plus puissante pour créer les champions de demain.
Bon, là, vous êtes d'accord. Mais alors, si je veux vous challenger un peu, on le dit, ça a l'air facile, mais ça se fait jamais. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est de la volonté politique. Et puis, on a quand même toute une liste de dépendances qu'on n'a pas du tout réussi à éteindre.
Oui, je pense qu'on a senti le vent du boulet. Donc j'espère qu'on va sentir un rush d'autonomie stratégique à voir. Je crois que les Allemands, par exemple, ont bien compris le message. Mais ce qui est important, c'est que nos dépendances, leur pendant, c'est justement la force à l'intérieur. Moi, je rappelle un chiffre. Hein. On importait à peu près 40% de notre mix énergétique à travers le gaz russe. Aujourd'hui, 30% de notre gaz importé vient des États-Unis. Donc, on a remplacé une dépendance. Donc, par exemple, accélérer la transition énergétique, cette verticale, c'est pas juste une question de faire joli, être herbivore, comme tu disais en introduction. C'est aussi une question stratégique. Autre chose, l'intelligence artificielle. On peut pas être au banc de l'intelligence artificielle. On peut pas être juste client d'entreprises qui vont décider des prix, décider de la technologie et du jour au lendemain peut-être nous mettre à l'amende et nous dire ah, mais en fait on veut plus que vous soyez connectés à tout ça. Mmh. Et donc derrière, peut-être là où Marc appelle plus de financement, moi j'appelle aussi un plus grand interventionnisme. Moi je pense qu'il y a aussi des politiques industrielles, des verticales, c'est plutôt le rapport l'État d'ailleurs plutôt que le rapport Draghi, l'armée par exemple, enfin sur 100 euros dépensés dans la sécurité, en Europe, en Allemagne par exemple, c'est 77 euros vont aux États-Unis, en Italie c'est 85 euros vont aux États-Unis. À un moment donné, il va falloir se poser la question d'avoir des chaînes de valeur un peu plus locales. Quoi.
Oui, le problème, c'est qu'on a pris beaucoup de retard, par exemple, dans l'IA. Est-ce qu'on va être capable de créer des modèles qui soient aussi puissants que les modèles américains, les modèles chinois? On voit bien que Mistral AI, par exemple, c'est l'entreprise que tout le monde cite. Bon, elle est un peu en train de chuter dans les résultats d'utilisation des modèles. On peut créer apparemment des modèles assez spécialisés pour des utilisations très spécifiques business. Donc, on n'aura peut-être pas une intelligence artificielle générative qui soit généraliste, mais effectivement, on a quand même pris du retard et donc c'est quand même assez embêtant. Pour le gaz américain, évidemment, ça prendra des années avant de se passer du gaz. Et puis la question, c'est comment est-ce qu'on fait des énergies renouvelables massivement? Est-ce qu'on fait du nucléaire? Ouais, il y a beaucoup de divergences en Europe qui fait que...
À résoudre à 27, c'est pas évident.
Voilà,
on peut le dire,
Après, on peut faire des coalitions de volontaires. Hein. C'est le grand truc du président Macron. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question.
Ça veut dire avancer avec un petit groupe.
Bah oui. Sur l'union des marchés de capitaux, c'est ce qui va se passer.
Vous étiez dans la tête là, il y a quelques secondes, on y reste. Il y a cette idée que si on veut se défendre, si on veut montrer les muscles, on pourrait dire à la tech américaine, on pourrait dire au Netflix, au Meta, le marché européen, on va vous mettre des barrières. Est-ce que ça, on est capable de le faire? Ou bien je
moi,
pense
j'ai du
au
mal
cloud
à, ça, moi, c'est la partie où je trouve... Enfin, Marc disait c'est compliqué de faire de l'IA. Après, il y a peut-être différents bouts d'IA qu'on peut faire. Et surtout, on peut essayer de faire jouer la taille de notre marché. Moi, je crois que par exemple, quand on parle des répercussions, des représailles, du genre mettre des amendes, etc., ou utiliser l'arsenal réglementaire...
L'instrument anti-coercition, c'est à ce à quoi
non,
vous pensez?
Non, l'instrument anti-coercition, c'est vraiment sur le commerce.
Le commerce, on va en parler. Okay.
Là, c'est plutôt... On utilise. On est très fort en réglementation. On n'a qu'à mettre des amendes, on n'a qu'à bloquer des marchés, on n'a qu'à les forcer à faire des co-sociétés avec les Européens. Il y a pas mal de gens qui proposent ça. Moi, j'ai du mal à voir comment ça marche. Parce que je trouve que ça, pour le coup, ça nous mettrait, nous, dans une situation où on serait en retard technologique. Et puis, par exemple, comment on fait si... Alors, est-ce que les GAFA ont vraiment besoin de nous? On est 30% de leur chiffre d'affaires.
Ah bah ça, on l'a entendu dans le ZAP, oui. Voilà. On est 25-30% de leur chiffre d'affaires.
Et alors, du coup, comment on travaille avec ces entreprises? Parce que c'est plutôt une histoire d'entreprise plutôt que d'État. Et là, je vois pas quelle est la stratégie que poursuit l'Europe.
La question, c'est est-ce qu'on a des systèmes alternatifs au cloud américain? Est-ce qu'on a des systèmes alternatifs à Microsoft, à Google, etc.? Donc, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Puis, à la fin, ça risque de coûter plus cher aux consommateurs européens. Donc, on va aussi, en essayant de répliquer déjà, on risque de déclencher des contre-mesures et puis on risque de se faire un peu mal à nous-mêmes. Je crois qu'il est important aussi de dire que, dans le discours de Marc Carnet, ce qui était important, c'était de dire... On ne va pas faire un repli sur nous-mêmes. Chaque puissance moyenne ne va pas fermer ses frontières, ne va pas s'arrêter, se recroqueviller. Il faut qu'on fasse des alliances, il faut qu'on signe des accords de libre-échange.
Alors voilà, je vous emmène là maintenant, troisième chapitre sur le commerce. Donc là, vous dites, Marc, ça c'est une façon d'avoir... On a des alternatives quand même. Il faut, donc si certains marchés se ferment, la Chine, les États-Unis, etc., là, il faut qu'on aille vers le
libre-échange. Il faut essayer de coopérer avec de nouveaux pays, essayer de trouver des approvisionnements stratégiques dans d'autres pays, d'où, même si ça pose des problèmes, l'importance en partie de la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. On négocie là avec l'Inde, l'Inde qui est proche au niveau géostratégique de la Russie. Donc pour l'Inde, le marché européen est très important. Donc il faut aussi essayer d'arrimer des puissances à l'idée que le commerce avec l'Europe peut être mutuellement profitable et essayer de créer une alliance balance de puissance qui aurait intérêt à résister aux États-Unis. Il y a le partenariat transpacifique hein, que le Canada nous propose. C'est une zone de libre-échange entre plusieurs pays avec le Canada que le Canada nous propose de rejoindre. Eh bien, ça, je pense que c'est à étudier de signer des accords avec des puissances alternatives aux États-Unis.
C'est la difficulté, c'est-à-dire que les accords libre-échange, c'est pas du tout populaire. On l'a vu avec le Mercosur.
Avec le Mercosur, ça ouvre tout un sujet sur
la
concurrence déloyale, et puis la planète, enfin voilà, c'est encore favorisé.
Donc c'est vrai qu'en termes d'export additionnel, c'est majeur, hein, c'est à peu près 100 milliards, si on prend à peu près 30 milliards de l'Asie, Marc, tu parlais de l'accord transpacifique, 30 milliards du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est dans cet accord, et donc ça reviendrait à renverser le Brexit, et puis il y a 30 milliards à peu près au Mercosur et dans l'Inde. Donc ça fait quand même pas mal d'options. Après, ces pays-là aussi, ils veulent devenir exportateurs. Je pense que là où on se met un peu le doigt dans l'œil, c'est cette idée que l'Europe peut continuer d'être un grand exportateur sans compensation. D'ailleurs, l'Inde, c'est la reine des offsets et des compensations. Mmh. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a pour moi si je vous ouvre mon marché ? Et donc, il va falloir aussi développer d'autres types de partenariats. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va motiver ces pays à accepter que les Européens puissent déverser une partie de leurs biens quand eux-mêmes pourraient faire ces accords de libre-échange. Et ça va être un peu la complexité, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout cette réflexivité dans les accords de libre-échange.
Dernier chapitre sur qu'est-ce qu'on a dans le coffre pour être plus mordant dans le nouvel ordre mondial. Que pensez-vous de cet instrument anti-coercition qui donc élèverait des barrières pour ceux qui ne seraient pas gentils avec nous ? Et question subsidiaire, est-ce que notre plus grande force, elle n'est pas financière ? C'est quoi notre grosse arme ? Est-ce que c'est le bazooka de l'instrument anti-coercition ou est-ce que c'est que nous détenons beaucoup de dettes américaines ?
Le bazooka de l'instrument anti-coercition, le problème, c'est qu'il crée de l'inflation parce qu'il nous fait perdre non seulement des parts de marché, généralement, on vous met une barrière douanière dessus, et en plus, vous remettez une barrière douanière, et donc vous créez un peu d'inflation à la maison. Et... Donc, moi, je pense que c'est bien de l'utiliser, je pense que ça a certainement pesé dans la balance, mais ce n'est pas un game changer. La puissance financière, moi, je crois qu'elle est hyper importante. Le problème, c'est que ça a été posé un peu bizarrement dans le débat cette semaine. C'est cette idée qu'on pourrait, par exemple, liquider notre détention de bons au trésor américain comme si ça créait une pression sur les États-Unis. Dont acte, hein, on détient à peu près 3 trilliards, donc c'est 30% de ce que les étrangers détiennent sur les États-Unis, rien qu'avec les pays qui étaient un peu dans l'axe de Trump. Mais ça nous créerait beaucoup de problèmes.
Attendez, 3 trilliards, il faut que vous mettiez les zéros.
C'est 3 000 milliards.
Voilà, merci.
Donc ça fait 10 puissance 12, c'est ça. Et donc, le sujet, c'est de se dire en fait, on n'a pas intérêt à faire ça parce que ça pourrait quand même déglinguer un peu le marché et donc nous coûter plus cher pour nous d'emprunter. En revanche, un truc dont on parle très peu, c'est l'euro. Ce qu'on a bien fait, c'est l'euro. En fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir une internationalisation, une diplomatie de l'euro. Il faut aller proposer aux autres de venir en Europe s'endetter et il faut travailler sur l'euro comme une monnaie d'échange plus grande que ce qu'elle a été aujourd'hui.
Que ça devienne une
et pour
monnaie
ça, il y en a à qui ça ne va pas plaire, mais il faudrait créer un marché de la dette en euros un peu unifié. Et bon, certains disent que ça passe par des eurobonds, qu'il faut développer des titres européens sûrs qui peuvent être mis dans le bilan des institutions financières privées et que ça soit considéré comme sans risque. Et donc, il faudrait faire une dette européenne commune. Alors, ça veut dire peut-être réduire les dettes nationales, etc. Mais en tout cas, dans le cercle de la Banque centrale, on dit à terme, il faudra créer cette réserve de valeur en euros. Hein,
surtout avec les stablecoins qui arrivent là, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une urgence.
Ah non, ne partez pas sur les stablecoins.
Un système de paiement libéré de l'influence de Visa, Mastercard, etc. Et c'est ce que
c'est en train de se construire.
Message d'espoir ce matin. Il y a des pistes pour être plus musclé.
Moi, je crois en tous les cas qu'il faut commencer maintenant. C'est-à-dire que l'idée, c'est même si ça nous coûte un peu cher d'avoir cette dualité dans notre géométrie variable, comme le dit Carnet, il faut le faire.
Ludovic Subran et Marc Vigneault, ils ont fait le débat de ce samedi 24 janvier.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de industrialisation
et unemployment and lower job
creation.
L'économie comme elle bouge ailleurs, c'est l'écho en VO. Je vous propose d'ouvrir un grand chapitre travail pour parler de changements fondamentaux. À Davos, toujours, Elon Musk a annoncé que Tesla devrait commercialiser ses premiers robots humanoïdes d'ici fin 2027. Eh bien, regardez déjà dans certaines sociétés la place qu'occupent ces machines d'apparence humaine. Direction Pékin.
Je suis à
和机器人二次开发的软件销售，我们团队大概有20个人吧。
C'est sur les réseaux sociaux chinois une dame robot très polie qui se présente et nous décrit l'entreprise qu'il a fabriquée. En Chine, on peut déjà parler d'un boom des robots humanoïdes. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Ces robots humanoïdes, on commence donc à les voir un peu partout chez vous, y compris Sébastien, dans les endroits les plus inattendus.
Oui, dans les hautes montagnes de l'Himalaya, où une télévision chinoise a filmé d'étranges créatures qui semblent monter la garde sur les sentiers. On est à la frontière entre la Chine et l'Inde, à quelques 4000 mètres d'altitude. Et lorsqu'on regarde de près, eh bien, on voit que ces créatures, en fait, ce sont des robots en forme d'humains. Ils surveillent ce secteur où un conflit frontalier oppose les deux puissances voisines. C'est évidemment très pratique de remplacer les soldats par des robots dans une zone où la présence humaine est compliquée à maintenir à cause du froid et de l'altitude. C'est l'un des nombreux exemples de l'utilisation des robots humanoïdes en Chine. Depuis quelques jours, on a aussi des robots qui font la circulation dans les rues de Hangzhou, la capitale chinoise des nouvelles technologies. Dopés à l'intelligence artificielle, ils sont capables de gérer le trafic. Et puis on a également un recours de plus en plus important aux robots humanoïdes dans les usines chinoises. Ils assurent notamment les opérations de manutention.
Et la Chine a de grandes ambitions, Sébastien ?
Oui, le secteur est vivement encouragé par les autorités. La Chine annonçait vouloir produire en 2025 plus de 10 000 robots humanoïdes, une croissance donc assez impressionnante, mais qui pose problème parce que la demande de robots n'est pas prête pour absorber toute cette production. Et puis si la Chine est clairement le leader mondial, cela prend quand même du temps pour élaborer des robots qui fonctionnent de façon optimale. L'année dernière, je me suis rendu au salon de la robotique à Pékin. Il y avait des essais avec des robots qui disputaient un match de football et j'ai pu voir que les humanoïdes avaient de gros problèmes de stabilité. Il y a encore du travail.
Sébastien Berriot avec nous de Pékin. Sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, sera dans ce studio pour les questions d'actualité, pour continuer avec nous cette réflexion sur l'avenir du travail. Avant de sortir des usines et des entrepôts, les robots, eh bien, ils vont avoir besoin de beaucoup d'intelligence artificielle. Ce chantier, vous le savez, il est en cours. Vous connaissez l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT. On nous promet maintenant le développement de l'IA agentique, c'est-à-dire une intelligence artificielle plus seulement capable de répondre quand on lui pose des questions, mais capable d'agir, de prendre des décisions et de mener à bien une mission sans intervention humaine. À quel point le travail va-t-il être bousculé par le déploiement de ces IA ? Eh bien, ça a déjà commencé. Voici le reportage de Stéphane Jourdain.
Donc, je suis David Creuse. Je suis traducteur depuis 14 ans maintenant. Je faisais de la traduction littéraire et la traduction technique de jeux vidéo, principalement. Ça ressemblait à 5-6 heures de travail par jour, à peu près. Je me suis arrêté en 2020 pour reprendre des études universitaires qui n'ont pas vraiment bien fonctionné. Je suis retourné à la traduction 4-5 ans après, dans un autre monde, complètement un autre monde. J'ai vu l'avant-après, l'arrivée de l'IA générative sur le marché de la traduction. Alors que je travaillais à plein temps avant cette pause, je travaillais plus qu'une journée par semaine peut-être pendant longtemps. Passé 6 mois vraiment de grosses galères, il n'y avait plus de projet. Auparavant, on avait le choix entre de nombreux clients, de nombreuses agences qui cherchaient tout le temps des nouveaux traducteurs. Et il n'y en a plus. Il y avait plusieurs sites qui référencent les travaux de traduction qu'on peut trouver, qui avaient pignon sur rue avant 2020. Et ces sites ne sont plus du tout fréquentés. Il y a beaucoup moins d'offres et quasiment toutes les offres qu'on trouve, ça va être des offres de post-édition. On va passer derrière une IA pour la corriger, payer moitié moins qu'une traduction, alors que c'est 2 fois plus de travail parfois. Ou alors, ça c'est le pire qu'on peut demander à un traducteur, des missions d'entraînement d'IA. C'est des clients qui possèdent des logiciels de traduction par IA qui veulent affiner leur traduction. Donc j'ai eu beaucoup de doutes à ce moment-là, donc des idées de reconversion. Puis n'étais pas très sensé non plus, j'ai voulu partir dans le développement informatique qui est aussi très très touché par le problème. Finalement, je me suis repenché sur la littérature. C'est une traduction qui généralement est moins bien payée que la traduction technique, y compris la traduction de jeux vidéo, mais qui je pense n'est pas en danger. J'ai du mal à penser que des gens veuillent lire de la littérature de l'art, c'est de l'art hein, au final, faite par une machine.
À ce jour, les quelques maisons d'édition avec lesquelles travaille David se refusent à utiliser l'intelligence artificielle. Mais d'autres ont franchi le pas allègrement, comme Harlequin, célèbre pour ses romans à l'eau de rose, qui s'est séparé en décembre de dizaines de traducteurs. Aux États-Unis, les revenus des traducteurs freelance ont chuté de 30% depuis la sortie de ChatGPT il y a 3 ans. D'autres métiers sont tout aussi exposés aux premiers effets de l'IA, les doubleurs de cinéma, les codeurs ou encore les comptables et experts comptables. Pour en parler avec des profs et des élèves, je me rends donc à l'INSEC, une école de comptables et de gestion située rue de Paradis, dans l'Est de Paris.
8h30, il y a les premiers étudiants qui vont passer ce matin, il y en a d'autres qui arrivent dans une heure.
Ce matin-là, le prof de comptabilité, M. Pérez, fait passer des oraux blancs.
L'arrivée de l'IA, c'est un sujet on entend souvent hein, quand on passe dans les couloirs, surtout qu'ici, on a des apprentis, donc ils sont vraiment en poste et qui utilisent tous les jours l'intelligence artificielle. Sur des opérations de base d'enregistrement comptable pur, l'intelligence artificielle va permettre d'aller beaucoup plus vite, puisqu'on va avoir une reconnaissance, par exemple, d'une facture, des imputations comptables, des écritures qui seront associées. Et on ne va pas avoir à saisir manuellement ces écritures comptables, on devra simplement les contrôler. Je pense que l'intelligence artificielle peut représenter un risque pour les emplois qui sont moins qualifiés. On constate dans les annonces qu'on a de moins en moins, même pour les alternants, des entreprises qui vont demander du BTSCG. Donc les Bac plus 2, on en demande un petit peu de moins en moins. On peut avoir des annonces où on demande directement du DCG, par exemple. Donc plus de Bac plus 3, plus de Bac plus 5, ou alors un Bac plus 2 qui a su s'adapter. De ce que j'ai vu et de mon expérience personnelle, on peut avoir 2 écoles au niveau des cabinets d'expertise comptable. On peut avoir un cabinet d'expertise comptable, bah, du coup tu vas plus vite, tu as l'intelligence artificielle, donc au lieu d'avoir 50 dossiers, on va te donner 70, et ça va faire aussi une suppression, hein, puisqu'il y aura moins de collaborateurs. Ou alors on va avoir un cabinet d'expertise comptable qui va dire, bah oui, vu que maintenant tu vas beaucoup plus vite, tu vas conserver le même nombre de dossiers, mais on va te proposer d'autres missions à plus forte valeur ajoutée, on va te former davantage sur des compétences qui sont à plus forte valeur ajoutée.
Pour l'heure, les étudiants que j'ai rencontrés ne s'inquiètent pas de l'arrivée de l'IA, car de toute façon, sur le marché, en ce moment, ils n'ont aucune difficulté pour trouver un emploi. Attention néanmoins, car presque tous les métiers à col blanc sont potentiellement impactés. L'arrivée progressive de l'IA agentique, qui permet à l'IA de remplir des missions de façon autonome, devrait largement transformer la façon de travailler dans le secteur des services. Pour mieux comprendre à quoi ressemblent ces fameux agents IA, je me suis rendu dans le quartier du Sentier, à Paris, où de nombreuses startups françaises sont installées.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Paul, bien et vous ?
Ouais, super.
Ça va ?
Me voici chez Mojo, une startup fondée en 2020, où travaillent aujourd'hui 70 salariés. Son fondateur, Paul Berlotti, nous fait la démo de son IA agentique la plus aboutie.
Je suis un vendeur. J'ai un rendez-vous qui arrive dans 10 minutes avec une entreprise. J'ouvre Mojo. Je déclenche mon agent de préparation de rendez-vous, mets-toi à la place d'un excellent vendeur d'entreprise et aide-moi à préparer mon rendez-vous qui va avoir lieu dans 10 minutes. En fait, donc, l'agent il va analyser l'intégralité des échanges passés avec l'entreprise et il va me donner 4-5 points que je dois avoir en tête. Et donc, en les lisant, j'arrive beaucoup plus préparé dans mon rendez-vous qui va arriver dans 5 minutes.
Donc, c'est un espèce de super assistant ?
Exactement, c'est pour ça qu'on dit que l'IA peut remplacer un stagiaire. On aurait pu la confier à un stagiaire en lui disant « J'ai un rendez-vous très important, donne-moi les 4 points clés que je dois avoir en tête. » Donc là, admettons que je viens de terminer mon rendez-vous, je dois répertorier le fait que j'ai eu un rendez-vous, voilà ce qui vient de se passer dans ce rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai un agent autonome qui va automatiquement faire un résumé de cette conversation. Et là, c'est un gain de temps considérable pour les vendeurs. Tout ce que vous voyez devant vous, là, ce texte ici, c'est des agents autonomes Mojo qui les ont renseignés. Et donc Mojo va proposer un email de suivi en quelques secondes et même, si besoin, créer une synthèse financière, une présentation PowerPoint. Donc les vendeurs n'auront plus du tout de temps administratif à consacrer. Ils enchaînent direct avec le prochain rendez-vous. Ils peuvent gagner près de 10 heures par vendeur par semaine. C'est considérable comme gain de temps. Les agents vont libérer toute la partie bureaucratique du travail. Donc le conseil, moi, que je donne à des employés, c'est si on n'utilise pas l'IA aujourd'hui, on va être dépassé par des employés qui utilisent l'IA. Et donc dans ce cas-là, on sera beaucoup moins productif et donc notre métier sera plus à risque.
En France, les plans de licenciement massif liés à l'IA sont encore rares et le sujet reste un tabou. Prenons l'exemple du Crédit Commercial de France en plein plan social avec plus de 1200 départs. Officiellement, rien à voir avec l'IA. Mais il y a quelques jours, son patron, Niccolò Hubertalli, a fait un aveu étonnant en direct sur BFM Business.
On a investi beaucoup sur l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle aide mon conseiller.
L'IA ne supprime pas des emplois chez vous ?
Alors, il les a supprimés dans la partie qui n'est pas face au client. Et notre plan a supprimé beaucoup de ces postes dus à des centaines de millions d'investissements sur ça.
Autre exemple, la Société Générale. La banque, qui dit vouloir renforcer l'automatisation et l'usage de l'intelligence artificielle, a annoncé jeudi sa décision de supprimer 1800 postes en France d'ici à fin 2027. Dans une étude qui fait autorité, l'université de Stanford constate d'ores et déjà un déclin de 13% des offres d'emploi pour les postes de début de carrière les plus exposés aux États-Unis. Et ensuite, les études ne font pas consensus. Le FMI estime que 40% des emplois vont être impactés à terme. Mais le prix Nobel de l'économie, Daron Acemoglu, parle lui plutôt de 5% d'ici 10 ans.
Le fait que les juniors soient touchés dans un premier temps, c'est vraiment une première phase.
L'économiste Axel Arquier a cofondé l'Observatoire des emplois menacés et émergents. Et pour elle, nous ne sommes qu'au tout début de ce mouvement.
Je pense qu'en gros, il y a effectivement, on va dire, globalement deux scénarios. Donc, il y a deux forces pour analyser les vagues d'innovation sur l'emploi. Il y a l'automatisation, donc destruction d'emplois. Et la deuxième force, c'est la création de nouvelles tâches, l'émergence de nouveaux métiers. Donc, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir suffisamment de nouveaux emplois qui vont émerger en nombre suffisant pour compenser les destructions ? Donc, si on est dans un scénario optimiste, on va dire que les créations vont compenser les destructions. Et si on est dans un scénario pessimiste, on pourrait avoir une réduction au niveau macro du nombre d'emplois. Mais dans les deux cas, il va y avoir des destructions d'emplois qui vont être, je pense, assez conséquentes sur le marché du travail. Donc un choc sur le marché du travail. Dans les 5 ans à venir, le temps que l'IA agentique, l'orchestration des modèles de langage, soit déployée dans les entreprises. Je pense que ça peut être suffisamment massif pour déstabiliser économiquement plusieurs pays.
Ce que vous dites est très angoissant.
Oui, alors, j'essaie d'alerter sur les risques, non pas que je sois sûre qu'ils vont se manifester, mais parce que je trouve qu'il y a un discours ambiant qui est assez rassuriste et qui analyse l'IA uniquement en termes de gains de productivité. Donc c'est quasiment sûr, à mon sens, qu'il va y avoir des gains de productivité. Mais je pense qu'il faut aussi considérer le pendant, qui est les risques sur le marché du travail.
Quand l'intelligence artificielle menace nos emplois, c'était le reportage de Stéphane Jourdain.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
La secrétaire générale de la CFDT est l'invitée d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour et bienvenue Marie-Lise.
Bonjour.
Vous avez écouté le reportage avec nous, vous avez entendu cet économiste qui parle d'un choc sur le marché du travail dans les 5 ans. Est-ce que vous aussi, Marie-Lise Léon, vous trouvez qu'en ce moment on a un discours sur l'intelligence artificielle trop rassuriste ?
Je partage l'idée qu'il va effectivement y avoir un choc. Et les discours rassuristes, oui, c'est vrai qu'il y a plutôt un élan plutôt d'optimisme. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'entends régulièrement que l'IA va supprimer des emplois, mais ce n'est pas l'IA qui supprime les emplois. Ce sont les entreprises qui l'utilisent et qui décident, dans le cadre de leur organisation, dans un réflexe souvent pavlovien, de dire on va faire des gains de productivité, donc on va supprimer des emplois. Et donc, je pense que c'est urgentissime d'avoir un vrai débat sur quel est l'usage, quelles peuvent être les tâches qui peuvent être supprimées et être au bénéfice des salariés. Mais la question de cet impact de l'usage et la façon dont ça va métamorphoser complètement le travail et l'ensemble des métiers. Mmh. Moi, je pense
ça vous bouscule, vous, en tant que syndicat?
Oui, ça me bouscule parce que nous, on veut en faire un objet de discussion et de dialogue social dans les entreprises.
Et justement,
essentiel. Et en fait, on en est quasiment au point mort.
Alors c'est ça, c'est en train de se déployer, mais il ne se passe rien.
Ça se déploie. Il y a un peu la stratégie du fait accompli, parce qu'en fait, c'est aussi des technologies que les salariés utilisent dans leur cadre personnel. Donc on voit que ça s'invite dans les entreprises. Et il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup d'entreprises qui courent un peu après cette technologie et qui surtout considèrent que ça ne doit pas faire l'objet d'un dialogue social. Or, c'est une métamorphose du travail. Il va y avoir des créations d'emplois, il va y avoir des disparitions d'emplois et tous les métiers vont être transformés. Donc s'il y a urgence à assurer cette transition. On ne peut pas dire on va passer d'une étape A à une étape B et puis on verra qui au bout du bout continuera d'être présent dans l'entreprise.
Et vous avez un chiffre à la CFDT ? Vous vous projetez sur le 5%, le 40% ?
Non, on se projette sur le fait que tout le monde va être concerné et que l'objectif numéro un pour la CFDT, c'est assurer ces transitions et se dire l'IA, il faut réfuter les discours que c'est l'IA qui supprime les emplois. Il n'y a pas de déterminisme technologique, ce sont les organisations du travail qui décident et qui s'adaptent. Et donc, la place des humains dans ces transformations, elle est fondamentale et elle doit être discutée avec les représentants du personnel.
Marie-Lise Léon, ce matin, la France se réveille, elle est tout près d'avoir un budget. Et
on
Sébastien Le Cornu a échappé aux dernières censures. Est-ce que le Premier ministre a bien fait d'utiliser le 49-3 ?
Je pense que c'est important d'avoir... Je ne vais pas rentrer dans la tambouille politique. Ça fait partie des enjeux qu'il y ait un budget le plus rapidement possible pour deux raisons. Un, je pense qu'il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes, nous les travailleurs, nous disent sur les lieux de travail, les responsables politiques en sont encore à discuter de ce budget. Il faut qu'on passe à autre chose. Et puis, ça a des impacts très concrets sur notamment les fonctionnaires, les agents des fonctions publiques. J'ai échangé avec une responsable de l'éducation nationale. Il n'y a aucune possibilité d'anticiper et de se projeter sur l'année 2026, par exemple sur la question des effectifs, la préparation des concours. Donc ça devenait extrêmement urgent qu'il y ait ce budget. Ce n'est pas le budget de la CFDT, bien entendu, c'est le fruit d'un compromis.
C'est le meilleur. Le Premier ministre, il dit, ce budget est meilleur que celui présenté initialement par le gouvernement.
C'est son appréciation. Il y a eu des reculs. Il y a eu des choses qui ont évolué. Notamment, je pense au fait qu'il n'y ait pas d'année blanche pour la revalorisation des APL. C'est une bonne chose pour les allocataires de ces APL. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de passer à autre chose, d'aborder la question de l'emploi, qui est un vrai sujet, et la CFDT tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs semaines, on aura l'occasion d'y revenir.
Oui, on va en parler.
Il y a la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la question numéro un, quand vous êtes représentant du personnel, c'est le sujet que les salariés, les agents des fonctions publiques, pointent comme étant leur préoccupation première. Comment je boucle les fins de mois ?
Le gouvernement a eu des réponses ces derniers jours. Dans le budget toujours, il y a cette idée que la prime d'activité va augmenter pour 3 millions de ménages aux revenus modestes, 50 euros par mois en moyenne. Ça va coûter 2 milliards aux finances publiques. Je voudrais vous lire ce qu'écrivait hier dans une tribune l'ancienne ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, c'était au Figaro. Elle écrit « Le logiciel politique français continue de financer les dépenses courantes par la dette pour espérer la cohésion sociale à coup de chèque. » Bref, on serait en train de redistribuer l'argent qu'on n'a pas. Est-ce qu'elle a raison ?
Elle n'a pas tort. C'est vrai que quand on regarde l'état des finances publiques et la question du pouvoir d'achat, là on parle de personnes qui vont bénéficier d'une prime d'activité qui va augmenter. C'est très bien pour eux. Je pense que c'est important de dire que ce n'est pas négligeable pour les salariés qui vont en bénéficier. Mais moi j'ai une question, c'est qui paye le travail ? Qui paye le travail ? Est-ce que c'est à l'État ?
Ça coûte 2 milliards.
Ça coûte 2 milliards, on n'a pas forcément les moyens en termes de finances publiques. Et c'est quand même bien de la responsabilité des employeurs de justement rémunérer les salariés. Et donc je pense que ce n'est pas un bon signal envoyé aux employeurs qui, pour beaucoup, on est en train d'aborder les négociations salariales pour l'année 2026. On voit qu'il y a une dynamique salariale qui est très faible. Il y a, je crois, un tiers des employeurs qui pensent proposer des augmentations salariales. Et en fait, la question de la reconnaissance du travail accompli, qui est le salaire, doit pouvoir évoluer et permettre à chacun et chacune de vivre dignement de son salaire. Donc, augmenter la prime d'activité, je pense que c'est déresponsabiliser des employeurs qui devraient assumer le fait qu'il y ait des compétences supplémentaires pour les salariés avec l'expérience. Et je pense que ça n'est pas un bon signal, en tout cas, ça va pas dans le sens de la responsabilité des employeurs, que ce soit dans les entreprises ou dans les branches professionnelles.
Les employeurs, eux, ils ont un autre combat en ce moment. C'est dans le budget toujours. Le président du MEDEF prévient que la surtaxe d'impôt sur les 300 grandes entreprises qui est reconduite va peser sur, je cite, des dizaines de milliers de sous-traitants, de prestataires qu'ont ces entreprises et ils vont souffrir de cette mesure. C'est ce que dit Patrick Martin. Il a raison, c'est dangereux cette surtaxe ?
Je pense que c'est assez symptomatique de considérer qu'une surtaxe qui est pensée comme étant un effort pour passer le cap aussi de cette période particulière d'un déficit important, ne peut pas être assumée par ces entreprises visées. Il faut qu'elles soient répercutées sur les sous-traitants. Je pense que ça n'est pas responsable, socialement responsable, de considérer que ces entreprises n'ont pas un rôle particulier à jouer économiquement dans la période spécifique que l'on traverse.
Vous disiez la CFDT tire la sonnette d'alarme. Mardi, vous étiez à une mobilisation emploi en danger devant Bercy. Que voyez-vous sur le terrain? Est-ce que le chômage est en train de remonter vivement? Là, aujourd'hui, on se parle et il y a des manifestations pour soutenir les salariés de Brand, par exemple. Là, on pense à eux ce matin.
On pense aux salariés de Arc France également, aux salariés de Sogefi. On a fait la liste des entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté pour plein de raisons différentes. On voit qu'il y a effectivement des suppressions d'emplois de façon massive et spectaculaire avec des entreprises emblématiques. Arc France, on est plus sur des centaines de salariés concernés. Le message qu'on a envoyé aussi au pouvoir public en ayant ce rassemblement mardi, qui était spécifiquement pour le territoire des Hauts-de-France, c'est qu'on voit aussi des entreprises de plus petite taille concernées et aussi supprimer des emplois. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de taille d'entreprise, ce n'est pas une question de secteur, ça concerne autant l'industrie que le commerce, la grande distribution, et on voit à bas bruit ce délitement du tissu de l'emploi à l'échelle du territoire des Hauts-de-France. Et donc l'idée, c'est de pouvoir envoyer le message que les syndicalistes que nous sommes, dans certaines situations, nous avions déjà vu depuis longtemps des entreprises en difficulté qui n'ont rien fait. Je pense à Sogefi, par exemple, qui est un sous-traitant de l'automobile. Ça fait un an que les élus alertent sur les difficultés de l'entreprise et que rien n'est fait. Et je reviens sur la question de la transition. C'est que c'est un moment, il y a des entreprises en difficulté, il faut pouvoir sécuriser les salariés concernés. Et aujourd'hui, on manque d'anticipation, de visibilité sur la situation de ces entreprises et la façon dont on va accompagner les salariés. Dans certains cas, on va pouvoir maintenir des emplois, on va pouvoir trouver des alternatives à la fermeture des entreprises. Dans d'autres cas, ça ne sera pas la possibilité. Et nous, syndicalistes, on n'est pas là pour jouer les pompiers uniquement de service, pour dire on va gérer les plans sociaux, les plans de sauvegarde de l'emploi.
Alors vous ne voulez
ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui de la place des représentants des personnels dans les entreprises.
Vous ne voulez pas jouer uniquement les pompiers. Dernière question. Mardi prochain, on sera le 27 janvier, vous allez participer à un événement baptisé Nuit de la Nouvelle République, organisé par le patron de Renaissance, Gabriel Attal. Vous lancer en politique?
Absolument pas. Je vais participer à d'autres initiatives. La CFDT, elle est prête au débat d'idées. Je pense qu'on a besoin d'alimenter le débat public sur les questions de travail. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un syndicaliste pour parler du travail, des enjeux d'emploi et de conditions de travail.
À tous les politiques,
donc,
le RN aussi.
Je réponds favorablement à toutes ces sollicitations. Vous savez très bien que la CFDT ne débat pas avec l'extrême droite en général. Et c'est avec plaisir que j'irai débattre avec Renaissance comme avec les écologistes ou le Parti Socialiste, là, à partir du moment où il y a des invitations.
Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Madame Vieux-Boulot, vous nous l'avez déjà expliqué. Normalement, un employeur ne peut pas sanctionner un salarié pour des faits commis en dehors des heures de travail. Mais alors là, vous nous dites que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a une nouvelle fois rappelé les règles.
Oui, Alexandra, l'affaire concerne un salut nazi et ce n'est pas la première fois que la justice a eu à se prononcer sur ce type de comportement. En 2020, la Cour de cassation a validé le licenciement d'un salarié. À 3 reprises, il avait fait ce geste et crié « Heil Hitler » devant une affiche d'extrême droite découverte dans l'entreprise. Même tarif pour un responsable commercial, cette fois devant la cour d'appel de Versailles en 2024. Au cours d'un repas de boulot, il avait fait des saluts nazis et tenu des propos obscènes et homophobes. Lui aussi avait plaidé l'humour. Ça n'a pas marché. Il reste que ces deux événements se sont produits dans le cadre professionnel, ce qui donne plus de latitude à l'employeur pour se débarrasser de ce genre de personnage. Le dossier d'Aix-en-Provence est plus compliqué parce que les faits se sont déroulés dans un stade de foot à Nice. Un jeune commercial a été filmé en train de mimer une kippa et de faire un salut hitlérien. Son entreprise l'a immédiatement viré pour un agissement qui relève de sa vie privée. Mais les juges ont considéré qu'il avait manqué à une obligation découlant de son contrat de travail. Il a enfreint la charte de la société qui prône des valeurs d'intégrité, de respect d'autrui, notamment religieux, afin de créer des lieux de travail non discriminatoires.
Mais alors, où se situe la frontière, Sandrine? Dans quel cas l'employeur n'a-t-il pas le droit de sanctionner les agissements privés d'un salarié?
Je l'ai dit, le salarié ne doit pas violer une obligation liée à son contrat de travail, ni créer de troubles manifestes dans l'entreprise. Dans l'affaire du VRP de Nice, qui a d'ailleurs été pénalement condamné par la suite, la médiatisation de l'affaire a notamment choqué plusieurs de ses collègues qui ont déclaré ne plus vouloir travailler avec lui. Mais si les faits ne rejaillissent pas directement sur le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur n'a pas à sanctionner le salarié. La justice a estimé qu'une salariée qui avait fumé du narguilé dans sa cabine lors d'une croisière organisée par l'entreprise n'avait pas à être virée, même si elle avait obstrué les détecteurs de fumée. Pareil pour une salariée qui avait pris de l'argent dans une autre association dont elle était trésorière. En revanche, un steward qui avait volé le portefeuille d'un client dans un hôtel partenaire de sa compagnie pendant une escale hors de son temps de travail a bien été licencié pour faute. Il a porté atteinte à l'image de sa société et manqué à ses obligations professionnelles. Évidemment, on peut toujours chercher à savoir où sont les limites, mais l'idée, c'est quand même d'y réfléchir à deux fois avant de faire n'importe quoi sur son temps libre.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.